Le vendredi 3 mai, pour vous, Français qui vivez à l'étranger, c'est la date limite pour vous inscrire sur les listes électorales consulaires afin de pouvoir voter aux élections européennes de juin 2024. Ne tardez pas, rendez-vous sur service-public.fr.
Les matins de France Culture, Guillaume Erner.
Certains parlent de séisme politique au Sénégal. L'opposant Bassirou Diomam Faye a remporté l'élection dès le premier tour face à Mamadou Ba, candidat de la majorité soutenu par le président sortant Macky Sall. Il y a 10 jours seulement, Diomaye Faye dormait encore en prison aux côtés d'autres leaders de l'opposition, dont son principal soutien, Ousmane Sonko. Si certains s'attendaient à cette victoire, elle n'en garde pas moins des allures de coup de théâtre. Qu'en est-il du programme du nouvel élu? La démocratie sortira-t-elle renforcée de cette alternance? Bonjour Elgas.
Bonjour.
Je précise que c'est votre nom de plume. Vous êtes chercheur associé à l'IRIS, sociologue, journaliste et écrivain. Alors, il faut revenir brièvement sur cette élection avec des conditions un peu compliquées, Elgas.
Oui, alors, on parle très souvent de tsunami, de tremblement de terre, de coup de théâtre. Je pense que ces qualificatifs ne sont pas usurpés. Quand on voit d'où vient le Sénégal avec le dernier semestre politique qui a été parfaitement chaotique, avec cette démocratie qui a été très, très amochée, très rudoyée, tenir une élection en 2 semaines sans contestation majeure et que le principal parti de l'opposition arrive au premier tour en tête, salué par l'ensemble des candidats et par le président de la République, c'est parfaitement inédit. Donc, c'est quelque chose qui met un peu en perspective ce qu'on a dit récemment sur la démocratie sénégalaise, certes incomplète, perfectible, mais qui est capable, comme ça, parfois, de sursaut majeur. Et c'est le sentiment qu'on observe se développer dans le pays, une grande fierté d'avoir réussi cette prouesse. En 20 ans, il y a eu 2 alternances politiques au Sénégal, ce qui marque, justement, l'ancrage très, très fort de cette démocratie au Sénégal, même si elle a titubé par moments. Et ce qui rend la chose beaucoup plus inédite, c'est l'ampleur de la victoire au premier tour. Quand on regarde la sociologie électorale sénégalaise, sa tradition, on n'a jamais vu ça. Un président très très jeune, un président qui était en prison, qui était le plan B d'un homme qui était celui qui était le principal favori et qui était en prison et qui a électrisé les foules pendant 2 semaines de campagne. Donc oui, il y a une légitimité à parler de coup de théâtre.
Les sondages ne sont pas autorisés au Sénégal. D'ailleurs, pourquoi ils gassent?
Alors, ça a toujours été perçu comme un agent perturbateur un peu du calendrier électoral. Et c'est une tradition qui est importée, qui a toujours été un peu contestée. Alors, l'histoire politique sénégalaise est toujours un peu complexe. Il y a un refus parfois de s'aligner sur les standards internationaux, parfois français, parce qu'on y voit parfois l'injonction à la conformité avec ce qui se passe à l'international. Et ces sondages sont perçus parfois comme un agent perturbateur de nature a un peu influé très négativement sur le cours des choses. Donc c'est pourquoi cela a été interdit, mais l'interdiction n'empêche pas la clandestinité justement des sondages qui ont été commandés. Et on a vu d'ailleurs que beaucoup de sondages ont été à l'origine de cette fragilité du régime qui, sentant la défaite arriver, a tout fait pour essayer de différer le scrutin.
On a donc une situation où les sondages étant interdits, il n'y avait évidemment pas de pronostic. Est-ce que ça n'était pas quand même quelque chose d'envisageable avant l'élection, cette victoire de l'opposition?
Alors, je pense que la victoire de l'opposition, elle était inéluctable. Quelle était sa magnitude, son ampleur? C'était peut-être la discussion, parce que le Sénégal a connu 3 années très difficiles qui ont été marquées justement par beaucoup de morts, par une situation quasi insurrectionnelle, par des manifestations, par une polarisation très très forte. Et puis, on sentait le président de la République acculé, et puis il était le premier responsable de cette forme de cacophonie tragique à la tête de l'État. Donc, Ousmane Sonko et son parti, le PASTEF, ont connu une ascension fulgurante. C'est un parti qui a 10 ans d'existence, qui a été décapité avec ses 2 leaders en prison, avec 1 millier de ses soutiens aussi mis en prison, sans aucune forme de procès, sans grief établi contre eux, et arriver à mobiliser comme ça des foules, à transformer la foule en capacité de votants, en quelque sorte, c'est une prouesse inédite. Donc, on attendait cette victoire-là, mais avec la configuration nouvelle, qui était parfaitement inédite, parce que le candidat sortant ne se présentait pas, on pensait qu'il y aurait, justement, dans la profusion des candidats, peut-être, justement, un partage du gâteau beaucoup plus large. Et ce qui s'est passé, c'est la conjonction de trois votes, c'est-à-dire le vote d'adhésion au parti PASTEF, avec son socle électoral traditionnel, un vote de rejet de Macky Sall, qui avait des allures de référendum, et puis un vote utile, qui a marginalisé les autres candidatures. Et à partir de là, on trouve tous les ingrédients, justement, de la force de cette victoire.
Alors, il faut que vous nous présentiez Bassirou Diomaye Faye, qui est donc le nouveau président du Sénégal.
Alors, c'est un homme de l'ombre. Il a toujours été un homme de l'ombre. Alors, Ousmane Sonko a toujours été le plus flamboyant, celui qui était au devant de la scène, qui
a le compare parfois à Jean-Luc Mélenchon.
Oh, je pense que c'est une comparaison un peu abusive. Déjà, en termes de tempérament, il y a un tribun qui n'est pas très, très avare de micro, et puis un autre qui est un homme d'intérieur, qui a tenu la popote du parti quand Ousmane Sonko était au-devant.
Non, je parlais d'Ousmane Sonko, pardon.
Ah, d'Ousmane Sonko et de Jean-Luc Mélenchon. Alors, il me semble qu'on pourrait dresser des communautés en termes de style, en termes de volonté de rupture avec un système établi. Mais il me semble qu'en termes de progressisme et d'ancrage à gauche sur des questions sociétales, il me semble très, très difficile d'établir un parallèle pertinent.
Et Je retire mon parallèle.
Alors, pour revenir à Bassirou Diomaye Faye, ce qu'on lui prête, c'est des qualités de sobriété, des qualités d'organisation. On dit de lui qu'il est méthodique. Et puis, il a pallié l'absence de Ousmane Sonko quand il était dans ses mésaventures judiciaires en tenant le parti, en lui imprimant une certaine forme de force. Mais maintenant, la lumière du pouvoir assagit ou alors rend beaucoup plus féroce. On le saura. Mais pour l'instant, il y a très peu d'ingrédients pour brosser un portrait juste, parce qu'il n'a jamais été aux responsabilités politiques, encore moins une responsabilité qui est la première au niveau national.
Qu'est-ce qu'il va faire alors ?
Alors, il l'a annoncé dans son parti. Alors, PASTEF, pour le coup, ils ont été parfaitement transparents. C'est ce qu'ils ont envie de faire. Ils ont produit un programme. Ils ont toujours annoncé avoir un projet qui est incarné par Ousmane Sonko. Par une collégialité d'ailleurs, parce que c'est un parti né aux Impôts et Domaines, qui est une maison importante au Sénégal. C'est essentiellement des inspecteurs des Impôts et Domaines. Et donc, il y a des marqueurs assez classiques. Un parti qui se dit panafricain. Et il n'est pas, à ce titre-là, d'ailleurs, dans une rupture. Parce qu'Abdoulaye Wade, qui a été président du Sénégal, a été aussi un acteur panafricain. Macky Sall a revendiqué cet héritage-là. Donc, il n'y a aucune forme de nouveauté. Peut-être que chez PASTEF, on sent une volonté nette de rupture et une revendication beaucoup plus claire de la notion de souverainisme. Donc il y a cet aspect-là dans le programme, la volonté aussi de s'attaquer aux problèmes de la jeunesse, parce que le parti PASTEF a recruté la majeure partie de sa force électorale au sein de ces jeunesses qui ont été sacrifiées.
Oui, c'est ça. Il faut que vous nous expliquiez, Elgas, qu'il y a apparemment, à travers cette élection, on voit qu'il était d'abord soutenu par la jeunesse, les milieux urbains. Est-ce qu'il a réussi à élargir son socle, probablement ?
Oui, pour la victoire, il était essentiel de pouvoir convaincre les profondeurs du pays, les profondeurs rurales qui étaient acquises au pouvoir. Donc, il y a ce socle premier. Il a réussi à trouver un lexique et un langage politique qui parle et qui décomplexifie les sujets politiques à l'endroit d'une jeunesse qui est à la fois défavorisée et parfois pas outillé nécessairement intellectuellement. Donc il a réussi, dans une allure presque messianique, et là je parle de Ousmane Sonko, à rendre ces problématiques à la fois urgentes et à susciter cet élan politique. Ça c'est sans doute son plus grand succès, incarner un espoir et un horizon pour des jeunes Sénégalais qui étaient justement promis parfois à l'immigration clandestine, comme on l'a vu récemment. Donc ça c'est son capital premier. La deuxième chose, c'est qu'il a battu campagne, il a écrit des livres sur ce qu'il a envie de faire, sur le pétrole, qui est une ressource qui sera exploitée au Sénégal bientôt. Et puis, il a offert une certaine forme de probité morale que son complice, d'ailleurs, Bassirou Diomaye Faye, le président élu, peut aussi réclamer. Mais probité qui a été fissurée, en quelque sorte, par l'épisode qu'il a connu en mars 2021, où il a été accusé de viol, accusation qui a été finalement laissé, il a été condamné, comme on le sait, pour corruption de la jeunesse. Donc il y a là les ingrédients en fait d'une dynamique politique qui est marquée par un projet, par un programme qui a aussi des accents parfois conservateurs, et il nous reste à attendre la formation du premier gouvernement, les premières orientations pour pouvoir évaluer clairement cette dynamique de PASTEF.
Une dernière question rapide, Elgas. Qu'est-ce qu'on peut imaginer en matière de relations franco-sénégalaises aujourd'hui?
Alors, je pense que on entend déjà des tonalités peut-être catastrophistes. Je serai plutôt à rebours de celles-là. Je ne pense pas qu'il y aura une forme de rupture nette, bruyante, comme on l'a vu avec d'autres pays du Sahel. Même si la volonté de renégocier les contrats, de sortir de l'asymétrie, de porter cette idée de monnaie nationale pour essayer de sortir du CFA seront des projets importants menés par le PASTEF. Et cette relation avec la France, il appartiendra aux deux parties de la construire. Mais je ne la vois pas en termes de conflictualité, mais en termes de volonté de rééquilibrage et de justice.
Merci beaucoup, Elgas. Je rappelle que vous êtes chercheur associé à l'IRIS, sociologue, journaliste et écrivain. Dans quelques instants, ma camarade Alexandra Delbo, on parlera de la fécondité qui continue de baisser dans le monde.